Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 13 Bahman 1401 du calendrier iranien, 2 février 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Dans une lettre à l'Organisation des Nations Unies, l'Iran souligne son droit de répondre fermement aux menaces et aux actions illicites d'Israël. Dans une lettre à l'Organisation des Nations Unies, la République islamique d'Iran souligne son droit de répondre fermement aux menaces et aux actions illicites du régime israélien. Téhéran répond à la lettre de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les modalités de la mise en exploitation du site nucléaire Fordo. L'Iran condamne la recrudescence de la violence israélienne contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'ambassadeur d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a souligné la responsabilité d'Israël dans une attaque de drones terroristes déjouée contre un atelier militaire dans la ville d'Isfahan, au centre du pays, affirmant que la République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre fermement à toute menace ou action répréhensible du régime de Tel Aviv. Amir Saïd Iravani a fait ses remarques dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, quelques jours après que le système de défense aérienne de la République islamique d'Iran a réussi à intercepter et à détruire 2 des 3 micro-véhicules aériens sans pilote utilisés par le régime israélien dans ses agressions contre le complexe d'Isfahan, contrecarrant efficacement cette attaque. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a annoncé que l'Iran avait envoyé une réponse à l'agence viennoise concernant le fonctionnement du site d'enrichissement de Fordo avant d'indiquer que les déclarations tenues par Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est le résultat de son manque d'informations. Behrouz Kamalvandi, en réponse à la question du journaliste politique de l'IRNA sur les déclarations faites par Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ont été publiées dans l'une des agences de presse internationale, a déclaré « Si M. Grossi l'a dit, je crois que ces informations n'ont pas été mises à jour. » Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a poursuivi. L'un des inspecteurs de l'agence avait signalé par l'inadvertance que l'Iran avait apporté des modifications non déclarées à la procédure de la mise en exploitation sur le site d'enrichissement de Fordo. Les inspecteurs précédents étaient présents sur les lieux et après les explications qui leur ont été données, le dit inspecteur s'est rendu compte de son erreur et après leur coordination avec le secrétariat de l'agence, l'affaire a été pratiquement réglée. En outre, une lettre a été envoyée aujourd'hui par le bureau de sauvegarde de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique en réponse à la lettre précédente de l'agence à cet égard. La République islamique d'Iran condamne la recrudescence de la violence israélienne contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Téhéran dit que le régime de Tel Aviv est voué à la décomposition et à la désintégration. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le régime israélien, embourbé dans des crises intérieures, fait face à la résistance palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza assiégée et dans les territoires occupés par Israël en 1948. Nasser Kanani a déclaré que les atrocités d'Israël contre les Palestiniens ne peuvent pas empêcher le régime israélien de sombrer dans le déclin. Tel Aviv a récemment intensifié la violence et les répressions contre les Palestiniens. 10 Palestiniens ont été tués la semaine dernière dans le raid le plus meurtrier du régime de Tel Aviv en Cisjordanie occupée depuis des années. Le raid sanglant a été condamné par l'autorité palestinienne et les groupes de résistance. La Russie a écarté les accusations du département d'État américain selon lesquelles elle ne respecterait pas les engagements de l'accord en 4 ans, les arsenaux nucléaires, renvoyant Washington à ses responsabilités dans la dégradation de la situation. Des accusations aussi sensationnelles qu'erronées. C'est ainsi que l'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov, a qualifié les affirmations du département d'État américain le 31 janvier, selon lesquelles Moscou ne respecterait pas ses engagements liés au traité New START qui limite l'arsenal nucléaire des deux pays. S'appuyant sur un rapport remis au Congrès, la diplomatie américaine a ainsi reproché à la Russie d'avoir suspendu des inspections et annulé les pourparlers prévus dans le cadre de cet accord, signé en 2010 et valide jusqu'en 2026. Nous estimons essentiel que cet accord reste en vigueur, a répliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse le 1er février, estimant à l'inverse que les États-Unis ont de fait détruit le cadre juridique et conventionnel de la maîtrise des armements et qu'ils ne manifestent guère leur volonté de dialoguer. Le porte-parole du Kremlin a mis en parallèle les accusations américaines avec la mobilisation dans le cadre du conflit ukrainien de l'ensemble des infrastructures militaires de l'OTAN contre la Russie. Le traité New START limite les arsenaux des deux pays à un minimum de 1550 ogives nucléaires déployées chacun et le nombre de lanceurs et bombardiers lourds à 800. Mercredi 1er février, la Russie a mis en garde le régime israélien contre la livraison d'armes à l'Ukraine après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il envisageait une aide militaire pour Kiev et qu'il était également disposé à servir de médiateur dans le conflit. Nous disons que tous les pays qui livrent des armes à l'Ukraine doivent comprendre que nous considérerons ces armes comme des cibles légitimes pour les forces armées russes, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. L'ambassadeur d'Iran à l'Organisation des Nations Unies a souligné la responsabilité d'Israël dans une attaque de drones terroristes déjouée contre un atelier militaire dans la ville d'Isfahan, au centre du pays, affirmant que la République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre fermement à toute menace ou action répréhensible du régime de Tel Aviv. Amir Saïd Iravani a fait ses remarques dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, mercredi, quelques jours après que le système de défense aérienne de l'Iran a réussi à intercepter et à détruire deux des trois micro-véhicules aériens sans pilote utilisés par le régime israélien dans ses agressions contre le complexe d'Isfahan, contrecarrant efficacement l'attaque. Il a dit que sur la base des premières enquêtes, le régime israélien était responsable de la tentative d'agression à Isfahan. La République islamique d'Iran réserve son droit légitime et inhérent, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, de défendre sa sécurité nationale et de répondre résolument à toute menace ou action illicite du régime israélien, où et quand cela est jugé nécessaire, a ajouté l'ambassadeur d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies. Il a souligné que les menaces d'Israël d'utiliser la force contre les infrastructures sensibles de l'Iran, y compris ces installations nucléaires pacifiques, sont une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, affirmant que le premier ministre du régime israélien, Benjamin Netanyahou, a admis l'implication de Tel Aviv dans des actes de sabotage et terrorisme en Iran. Iravani a ajouté que l'attaque d'Isfahan n'était pas le premier cas où le régime israélien a menacé d'utiliser la force ou a commis des actes criminels et terroristes sur le territoire iranien. Soulignant les menaces fréquentes d'Israël et les nombreux actes de terrorisme et de sabotage contre les installations nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran, les responsables, les scientifiques et les civils ces dernières années, il a déclaré que le régime israélien avait ouvertement admis son implication dans ces crimes répréhensibles. Par conséquent, il doit être tenu responsable de tous les actes criminels et terroristes commis contre la République islamique d'Iran et en subir les conséquences sans exception, a déclaré le diplomate iranien. Il a exhorté le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter de sa responsabilité en vertu de la Charte des Nations Unies et à condamner les déclarations bellicistes et les actes de terrorisme, y compris le terrorisme d'État d'Israël, qui, selon lui, constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Le Conseil de sécurité doit également exiger que le régime israélien respecte le droit international et cesse ses plans dangereux et ses activités malveillantes dans la région, a déclaré l'ambassadeur Iravani. L'agence iranienne Nour News a rapporté mercredi que les terroristes, commandés par un service de renseignement étranger, ont fait passer en contrebande les éléments constitutifs d'un microvéhicule aérien et des matériaux explosifs de la région autonome du Kurdistan irakien vers l'Iran par des itinéraires lointains et ardus et les ont remis à une liaison dans une ville frontalière du nord-ouest de la République islamique d'Iran.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet qui nous concerne correspond par rapport à la situation entre l'Ukraine et l'Iran, l'attaque à Isfahan, également l'attaque terroriste à Isfahan, qui se sont déroulées sur les locaux militaires. Bien entendu, rien n'est arrivé officiellement, et même les images satellites des chaînes étrangères ont bien montré que ce qui s'est passé à Isfahan était un incident qui n'a eu aucun impact négatif sur les locaux iraniens. Mais malgré tout, des déclarations extrêmement négatives sont arrivées de la part de différents pays, dont l'Ukraine. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est donc notre reportage qui vous fait le point sur la situation pour par la suite faire venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
L'Iran envisage de changer de stratégie par rapport à la guerre en Ukraine, et ce suite aux propos hostiles de Kiev sur l'attaque d'Isfahan. Si les déclarations hostiles de Mikhail Podolak, conseiller du président ukrainien contre l'Iran, ne sont pas corrigées par les autorités officielles de ce pays, elles pourraient entraîner la réaction de la part de la République islamique d'Iran, a déclaré une source bien informée au site d'information Nour News, lié au Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran. L'Iran est probablement en train de changer son approche envers la guerre en Ukraine en réponse à l'aveu implicite de la responsabilité du gouvernement de Kiev par rapport à l'attaque de drones repoussée dans la ville d'Isfahan, située dans le centre, ajoute la même source. Sous couvert de l'anonymat, la source a déclaré que les allégations hostiles du conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky peuvent entraîner des réactions différentes de la part de Téhéran, à moins qu'elles ne soient corrigées par les autorités du pays. L'insistance de l'Ukraine à menacer la sécurité nationale de l'Iran peut ouvrir la voie à un changement de position de la République islamique d'Iran concernant la guerre en Ukraine et l'adoption d'une nouvelle approche proportionnée au comportement du gouvernement de Kiev, affirme toujours la source. Plus tôt, le ministère iranien de la Défense a annoncé dans un communiqué publié dimanche 29 janvier que l'un de ses complexes d'ateliers à Isfahan avait été attaqué par un certain nombre de micro-véhicules aériens, mais que les défenses aériennes ont réussi à repousser l'attaque. Le ministère iranien de la Défense a rassuré dans un communiqué que l'attaque n'avait causé aucune perte de vie et n'avait fait que des dommages mineurs au toit d'un atelier. Le complexe, ajoute le communiqué, poursuit ses opérations ordinaires après l'attaque. Y réagissant, Mikhailo Podolyak n'a pas tardé à exprimer sa joie sur son compte Twitter en indiquant « L'Ukraine vous a prévenu ». Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires ukrainien pour demander des explications sur les commentaires de Podolyak. Dans un rapport publié dans son numéro du dimanche 29 janvier, le Wall Street Journal a affirmé qu'Israël, un allié principal de l'Ukraine, avait mené une attaque de drone contre un centre militaire iranien de recherche et développement samedi à minuit. L'Iran a adopté une position de principe sur la guerre en Ukraine depuis son début et a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'arrêter le conflit militaire et sa solution par le dialogue. Alors que le gouvernement ukrainien, provoqué par ses partenaires occidentaux, a accusé l'Iran de fournir un soutien en armement à la Russie pendant la guerre en Ukraine, il n'a pas été toutefois en mesure de fournir la moindre preuve pour étayer ses affirmations.
Nous revoilà sur les plateaux. Donc, nous allons d'abord faire venir nos invités pour aller plus en avant. Alors, notre premier invité étant Monsieur Bernard Cornu. Bonjour, monsieur, expert géopolitique. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Oui, bonjour.
Alors, notre deuxième invité, vous le connaissez, Monsieur Jacob Cohen, écrivain et activiste. Bonjour, Monsieur Jacob Cohen. Ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, j'ai envie de dire que c'est encore depuis 6 mois la même politique de désinformation lorsqu'on parle de l'Iran, lorsqu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, du fait qu'également on est coupé les chaînes satellitaires qui donnent accès aux chaînes iraniennes comme IRIB ou Press TV. On a fait croire que, bon, qu'il y a eu une attaque à Isfahan concernant des locaux militaires de logistique, et on a fait croire pendant plusieurs heures que c'était une opération réussie de la part des ennemis de l'Iran pour finalement en aboutir à des visions satellitaires montrant que l'endroit en question n'avait pas du tout été atteint. Alors c'est encore ce genre de propagande, d'information, de rhétorique qui veut montrer la catastrophe dans un pays et faire peur certainement à la population iranienne. Et aussi on voit les ennemis de l'Iran, notamment l'Ukraine, qui s'est de plus en plus montrée invective alors qu'il n'y avait aucune preuve que des drones iraniens étaient dans la confrontation qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine à l'heure actuelle. Monsieur Jacob Cohen, vous connaissez bien ces messages rhétoriques concernant des fausses informations, vous-même étant extrêmement actif concernant la Palestine et la cause palestinienne. Quand vous voyez ce genre d'informations sur 24 heures défiler, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est-à-dire depuis au moins 20 ans, Israël mène une guerre sur tous les plans, c'est-à-dire sauf militaire, sauf des actions ponctuelles dont on ne connaît pas l'origine officiellement, mais surtout une guerre psychologique, une guerre idéologique, une guerre politique. Ça fait 20 ans qu'Israël menace l'Iran, menace le monde entier, qu'il va intervenir en Iran, mais il ne le fait jamais. Mais, disons, ça a entraîné le monde occidental dans une série de représailles, de boycotts, de harcèlement, de prélèvements, de saisies de comptes bancaires. Donc en fait, l'Iran est une obsession d'Israël. D'ailleurs, enfin, même cette semaine, la passation de pouvoir entre le chef d'état-major, l'ancien et le nouveau, et on a dit que l'Iran était le principal problème d'Israël. Voilà, en fait, l'Iran est monté vraiment comme l'objectif principal. Dès que le Premier ministre ou un membre du gouvernement israélien voyage à l'étranger ou reçoit, par exemple, ils ont reçu Blinken il y a 2 jours, ils ont mis encore le problème iranien sur le tapis. C'est-à-dire qu'ils en ont fait leur obsession et ils veulent en faire aussi l'obsession du monde entier. Et donc tout ça participe à cette guerre psychologique qui doit maintenir une pression maximale sur ce pays.
Merci, Monsieur Cohen. On a même vu les Américains se rétracter parce que dans les 24 heures qu'ont suivi donc cette attaque, on disait que c'était les Américains qui avaient fait une déclaration de guerre en envoyant ces drones. Et finalement, les Américains ont pris peur et ont commencé à dire « Non, non, c'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous, nous n'étions même pas au courant ou nous n'avons pas été mêlés ». Par contre, l'Ukraine s'est montrée, disons, très différente. On pourrait même croire qu'ils savaient, qu'ils connaissaient la situation et qu'ils savaient que les drones devaient attaquer. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine serait liée à cette attaque? Et dans ce cas-là, est-ce que vous attendez à ce que l'Iran réagisse d'une manière extrêmement dure? Monsieur, toujours Monsieur Cohen, s'il vous plaît.
L'Ukraine, elle saisit l'opportunité, elle voit où est le rapport de force. L'Ukraine cherche par tous les moyens à gagner non seulement la sympathie d'Israël qui lui est acquise, mais la fourniture d'armement qu'Israël refuse jusqu'à présent. En fait, les Israéliens sont très réalistes, très cyniques. Ils retiennent des armements qui pourraient servir à l'Ukraine. Et donc l'Ukraine cherche par cette, comment dire, une façon déguisée de prendre parti contre l'Iran. Donc qu'est-ce qui ferait plaisir à Israël surtout et à l'Amérique? C'est de taper sur l'Iran. Alors que l'Iran n'a rien à voir avec l'Ukraine. Enfin, ces deux pays n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Mais disons que le régime ukrainien saisit cette opportunité, se dit, si je prends fait et cause pour Israël contre l'Iran, ça va faire plaisir. Je vais caresser dans le sens du poil les dirigeants israéliens. Donc en fait, c'est juste un moyen détourné de prendre un peu de sympathie du gouvernement israélien.
Merci, M. Cohen. M. Bernard Cornu, bon, comme vient de dire M. Jacob Cohen, il y a quand même une idéologie très différente entre l'Ukraine nazie et puis Israël, puisque Israël a été soi-disant construite à cause de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et l'histoire concernant les Juifs en Europe. C'est extrêmement dramatique de voir la situation arriver, que l'Iran a plusieurs fois indiqué qu'elle était pour la voie de la négociation, pour la voie de la paix sur la situation ukrainienne et aucune preuve matérielle. Pourtant, c'est facile quand on envoie des drones sur un terrain. C'est quand même facile de récupérer du matériel qui prouve que du matériel étranger a été utilisé sur le territoire. Mais aucun élément matériel n'a été trouvé. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Kiev de féliciter une telle attaque alors que ça ne peut que rajouter une déstabilisation dans un pays du Moyen-Orient qui a été l'un des rares pays du Moyen-Orient à être stable? Est-ce que c'est pas risible alors que même ils se disent attaqués?
Je pense d'ailleurs qu'il y a des collusions et de la corruption entre des milieux d'affaires sur les armements, entre les industries d'armement israéliennes, les services de renseignement israéliens et l'entourage des dirigeants ukrainiens, les acheteurs d'armes et tout ça. Je crois que malheureusement les marchés d'armes sont des marchés très corrompus parce que ce sont des marchés dans lesquels les décisions ne sont pas rationnels, ce sont très politiques, ce sont des décisions stratégiques qui sont souvent non pas prises par les parlements, mais par les dirigeants au pouvoir. Donc je pense que la première hypothèse, c'est des liens, disons, de connivence entre certains entourages du président Zelensky et les milieux israéliens de l'armement et du renseignement. D'ailleurs, on n'a pas encore évoqué, mais j'ai lu que dans vos reportages que les drones qui ont attaqué Isfahan n'ont pas des portées très, très, très longues. Donc, il est probable qu'ils aient été lancés depuis un territoire assez proche. Et pour moi, mon expérience du Moyen-Orient me fait penser qu'ils ont été lancés depuis le nord de l'Irak, où on sait qu'il y a des centaines d'agents israéliens sous diverses couvertures, différentes nationalités, différents passeports, et qui sont là pour entourer le gouvernement autonome de la région kurde d'Irak et en fait procéder très souvent à des manipulations envers l'Iran et même envers l'Irak et envers la Syrie selon leurs intérêts du moment. Donc je pense que les dirigeants ukrainiens qui ont tout de suite commenté cette action militaire secrète avaient des informations ou savaient qu'il allait se passer quelque chose. Donc ils ont profité pour se faire valoir effectivement vis-à-vis des dirigeants israéliens et en fait ils révélaient un peu leur connivence dans ceci et ce n'est pas bon pour eux normalement.
Merci, Monsieur Bernard Cornu. Alors, Monsieur Jacob Cohen, l'Iran, depuis son départ d'être indépendant et de sa révolution, qui est aujourd'hui le 44e anniversaire de la venue de Khomeini à partir de l'aéroport, il y a toujours eu cette volonté de montrer que l'Iran souhaitait utiliser le nucléaire afin d'attaquer ses voisins, afin d'être un ennemi de l'humanité, hein, parce que toute personne qui utiliserait la bombe nucléaire est un ennemi de l'humanité. Il y a toujours eu cette information de propagande, alors qu'il y a dans la constitution iranienne l'interdiction de l'employer dans à des fins militaires, mais seulement à des fins civiles. Rien que les semaines précédentes, on a montré plusieurs technologies nucléaires en Iran grâce aux exhibitions technologiques des dernières démarches possibles. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que la crédibilité à l'heure actuelle des États-Unis et de l'Union européenne et derrière, bien entendu, l'OTAN est enfin en train d'en ressortir ? Ou est-ce qu'on en a encore à cette image de l'Iran dangereuse pour l'humanité ?
Malheureusement, les médias occidentaux, en tout cas les médias occidentaux, ont pris fait et cause, grosso modo, hein, bien sûr, pour Israël, pour l'Amérique. Et donc, depuis plus de 20 ans, enfin moi je suis cette affaire depuis au moins 20 ans, et ils ont mis l'Iran sur le gris. Voilà, c'est-à-dire que... je me souviens, Erwet, qui a une rubrique internationale sur une chaîne d'information continue, un jour en 2010, je crois, il avait dit, bah, enfin, il y en a marre, ça fait depuis 10 ans, Israël nous annonce tous les 6 mois que l'Iran va avoir une bombe nucléaire et on ne voit rien. Pourtant, c'est un pro-américain. Eh bien, en fait, c'est ça la manipulation politico-médiatique, c'est-à-dire... on monte tout le temps, on dit le régime iranien, enfin bon, les bombes. Ils ont signé un accord en 2015, donc garanti par l'Amérique, par l'Allemagne, les cinq ont signé, la Russie. Donc pourquoi ils ne l'ont pas poursuivi ? Pourquoi ils l'ont coupé ? Justement parce que Israël a harcelé le gouvernement américain pour qu'il viole cet accord. Donc ouvrant la voie, en principe, si l'accord est nul et non avenu, enfin, en tout cas n'a plus cours, ouvrant la voie à la production nucléaire militaire soi-disant iranienne. Or, pourquoi on a supprimé cet accord si on veut vraiment éviter la nucléarisation de l'Iran ? En fait, tout ça, c'est vraiment une opération de propagande. Et comme les médias et les gouvernements occidentaux sont du côté israélien, à 90%, eh ben la propagande finit par marcher. C'est ça, le problème est là, fondamentalement. Et ça veut dire qu'on ne va pas chercher la réalité de la chose. On ne va pas envoyer des journalistes objectifs, indépendants, chercher vraiment en Iran, présenter le point de vue iranien. On va reproduire le discours de la doxa officielle.
Merci Bernard Collin. Monsieur Bernard Cornu, qu'est-ce que vous pensez du futur en voyant la situation ? L'Iran a laissé entendre qu'elle allait se venger des propos tenus par les responsables ukrainiens suite à l'attaque de drones. Elle ne restera pas indifférent à la situation, surtout qu'on sait que depuis quelque temps, la diplomatie entre eux est extrêmement tendue. Est-ce que vous attendez à une intervention ou à une aide militaire de la part de l'Iran concernant l'Ukraine ? Et dans ce cas-là, on pense également aux accords nucléaires. Ça veut dire que finalement, on ferme la porte, parce que certainement, si jamais l'Iran décidait de rejoindre la Russie dans la situation, on peut s'attendre à ce que le JCPAO ferme complètement la discussion. Vous en pensez quoi ?
Je suis sûr qu'il y aura une réaction sans doute diplomatique de l'Iran. Je voudrais d'abord compléter ce qu'a dit M. Cohen sur la manipulation très ancienne des milieux israéliens vis-à-vis de l'Iran. Tout ceci a été raconté dans un livre de M. Gareth Porter en anglais, Manufactured Crisis, The Untold Story of the Iran Nuclear Scare, l'histoire non racontée de la frayeur nucléaire envers l'Iran. C'est un livre de 300 pages de 2014 avec plus de 900 notes de référence. Et je peux vous dire, je peux témoigner personnellement que l'ancien ambassadeur de France à Téhéran, que j'ai bien connu, qui était très sollicité à la fois par le gouvernement et par les médias pour parler de l'Iran, n'a jamais lu ce livre que je lui avais signalé. Donc si vous voulez, la personne qui était pourtant, j'avais beaucoup d'affection pour cet homme qui était un très bon connaisseur de l'Iran, mais il n'avait pas cherché à bien comprendre comment la propagande s'était insinuée partout, dans les médias, dans les milieux politiques, au sujet de l'Iran. Et je signale un dernier fait, c'est que dans tous les médias français et européens, je consulte parfois la presse anglaise, allemande et tout ça, et suisse, quand on parle du nucléaire en Iran, on ne rajoute jamais chez nous l'adjectif civil. On dit toujours nucléaire, ce qui permet aux gens d'imaginer que c'est aussi du nucléaire militaire. Et donc, ceci est très important, c'est un détail, mais c'est comme ça que se poursuit la manipulation médiatique et que la propagande israélienne est réceptionnée par nos médias et par le grand public, parce qu'on ne fait jamais la distinction précise entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Comme l'a dit M. Cohen, l'Iran a renoncé depuis longtemps à se doter d'armes de destruction massive, y compris le nucléaire, et ceci figure dans les documents officiels. Et d'autre part, ce livre, notamment de M. Gareth Porter, ce livre signale que dès 2007, la synthèse du renseignement américain disait que l'Iran n'a plus de programme militaire, nucléaire, et n'a plus même d'intention militaire. C'était écrit noir sur blanc dans les documents, les synthèses du renseignement, National Intelligence Estimate, on appelle ça en anglais, enfin aux États-Unis. Voilà. Et donc, au fond, les dirigeants américains le savent et ils se laissent en fait envahir par cette propagande parce que les dirigeants n'ont pas le temps de lire de tels livres. Mais en fait, du coup, ils sont sensibles à la propagande israélienne qui ne cesse pas depuis plus de 20 ans à laisser supposer que l'Iran est prêt à se doter d'une bombe nucléaire.
Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que
la propagande marche, donc l'Iran a tout à fait raison quand des politiques, notamment Blinken récemment, dans un interview à l'Arabie Saoudite, enfin un journal saoudien, un média saoudien, où ses dirigeants ou ses conseillers ukrainiens évoquent le risque de laisser l'Iran s'approcher d'une capacité nucléaire, militaire, eh bien l'Iran a raison de répéter, de réfléchir et de répéter sa position officielle depuis longtemps. Mais c'est vrai que dans les médias européens, ça ne passe pas souvent et qu'on continue à parler de nucléaire sans préciser civil ou militaire.
Monsieur Cornu, quand je parlais des conséquences vis-à-vis de la diplomatie entre l'Ukraine et l'Iran, c'est quoi votre point de vue? Comment l'Iran risque de réagir aux propos tenus par Zelensky et par ses ministres?
De faire une réaction diplomatique, peut-être rappeler son ambassadeur, mais faire une protestation diplomatique très ferme pour demander à ce que l'Ukraine rectifie officiellement ce genre de déclaration, non justifiée.
Merci. Monsieur Jacob Cohen, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec les propos tenus par monsieur Bernard Cornu? Vous pensez que ça n'ira pas plus que face à une réaction diplomatique de la part de l'Iran?
Non, je crois que même ça peut aller un peu plus loin. Vous savez, cette aventure de l'OTAN en Ukraine, elle a eu d'abord un objectif inattendu qui a été l'alliance de la Russie et de la Chine, qui doit forcément se tenir la main, même s'il peut y avoir des problèmes. Mais ils savent que si l'un tombe, l'autre tombera aussi, en tout cas sera en but. Et l'Iran et la Russie a trouvé un allié, disons, dans ce pays pestiféré de l'Occident qu'est l'Iran. Et donc l'Iran va trouver des alliés, va développer une alliance qui serait très importante pour lui, qui sera la Russie et la Chine. Et donc finalement cette affaire de l'Ukraine peut être bénéfique pour l'Iran dans la mesure où disons que la Russie qui cherche qui a des alliances, mais enfin qui peut avoir un appui dans cette région considérable, important pour sa technologie, enfin tout ce qu'on sait de l'Iran. Et donc finalement peut avoir pour effet de rapprocher beaucoup plus l'Iran de la Russie, éventuellement des pays, des BRICS aussi. Voilà.
Merci. Finalement, ce sera notre conclusion de notre débat. Je remercie nos deux invités, M. Bernard Cornu, je rappelle notre expert en questions politiques, M. Jacob Cohen, très connu pour la cause palestinienne, écrivain également. Je vous remercie à tous les deux pour votre participation à ce débat. C'est plutôt la conclusion, c'est que c'est un grand manque à gagner pour l'Ukraine de sortir l'Iran de son envie de paix et de rester neutre dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le futur nous indiquera vers quelle direction la diplomatie iranienne ira. En tout cas, je vous remercie, vous, auditeurs, de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages et réseaux sociaux. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
la voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 36 à 39 du chapitre 42 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu ensemble des versets de la sourate 42 du Noble Coran qui indiquaient que l'univers de la création était comme une collection de signes innombrables de la grandeur, de la puissance et de la sagesse du Seigneur. Dieu le Très-Haut a disséminé les êtres vivants dans l'univers et a donné une grande diversité aux formes différentes de la vie. Mais comme le souligne le Noble Coran, Dieu est capable de les réunir quand il le voudra. Dieu est la source infinie de la bonté et de la miséricorde. Dieu est pardonneur envers ses créatures. Mais tout le malheur qui arrive aux humains est le résultat du mal qu'ils accomplissent eux-mêmes. Les pécheurs doivent donc savoir qu'ils ne peuvent jamais échapper à la puissance de Dieu et qu'ils ne trouveront aucun maître et aucun défenseur en dehors du Seigneur des deux mondes. Grâce à Dieu et les règles qu'il a établies dans la nature, les hommes peuvent apprendre la navigation maritime et assurer leur sécurité pendant les longs voyages en mer. Le Coran ajoute que les humains doivent donc en être reconnaissants envers leur Créateur. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 36 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. Puis nous vous en donnerons la traduction.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Tout ce qui vous a été donné, combien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Les biens et les jouissances de ce monde sont tous éphémères et il faut éviter de les croire éternels. Par contre, les biens, les richesses et les jouissances qui sont dans l'autre monde, auprès du Seigneur des deux mondes, sont meilleurs et durables pour les croyants et les pieux. Si l'on donne donc les biens éphémères pour obtenir les jouissances éternelles, on sera gagnant. C'est ainsi que le Coran appelle les humains à réfléchir à leur existence éternelle dans l'autre monde et de ne pas la sacrifier pour les plaisirs passagers de ce monde matériel. Voici maintenant le verset 37 de la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
Ceux qui ont cru évitent de commettre des péchés les plus graves, ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère. Suite au verset précédent qui indiquait les caractéristiques des croyants, ce verset souligne deux autres traits de leur caractère, du point de vue moral et comportemental. Ils évitent consciencieusement de commettre les péchés les plus graves et après se mettre en colère envers leur prochain, ils pardonnent. Ce verset nous apprend que la foi en Dieu renforce dans leur cœur la pitié, mais aussi la clémence. Surtout, la foi permet à l'individu d'avoir un contrôle considérable sur soi. Dans plusieurs hadiths, il est dit que pour mieux connaître un ami, observez son comportement quand il se met en colère. Est-il capable de se contrôler et d'éviter d'être injuste envers les autres? Ce contrôle est, d'après ce verset, un signe de la foi en Dieu. Écoutons enfin les versets 38 et 39 de la sourate 42 du Noble Coran.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
Ils répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent l'office, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur avons attribué, et atteints par l'injustice, ils ripostent. Ces versets mettent l'accent sur l'autre trait des gens qui ont la foi en Dieu. Ils répondent à l'appel du Seigneur, ils célèbrent la prière, et en ce qui concerne le règlement de leurs affaires communes, ils se consultent. Ils font la charité et donnent aux nécessiteux de ce que Dieu le Très-Haut leur a donné généreusement. L'histoire de l'islam témoigne que le noble prophète de l'islam, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, et ses proches compagnons correspondaient exactement à ces traits de caractère qui sont en réalité des signes de foi. Bien qu'ils soient liés à la révélation divine, le messager de Dieu consultait ses adeptes pour les affaires sociales et politiques, et il est toujours prêt à accepter l'avis de la majorité, même s'il était en désaccord lui-même. En effet, c'est un enseignement très important de l'islam, ce qui explique d'ailleurs que le verset 42 du Noble Coran est appelé la consultation. Ces versets soulignent aussi que les gens qui croient en Dieu résistent à l'oppression et à l'injustice. Ils ont donc la volonté de se réunir et de former une résistance aux oppresseurs et aux injustes. De nombreux versets du Noble Coran confirment que les vrais croyants ne sont pas oppresseurs et qu'ils se révoltent contre l'oppression, soit envers eux-mêmes, soit envers les autres. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 42 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Shura, la consultation. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Thank you.